France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio-Canada.
Le réseau des radios d'outre-mer La Première.
Présente.
La folie des années 80.
On est dans la merde en France. On est dans la merde.
C'est cela, oui.
25 millions de rubis cubes vendus.
I said I want to fuck her.
Oh, maman.
3615 infogrammes, des milliers de pins à gagner.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Une série réalisée par Cécile Posse et Marion Guimette.
Année 1981.
Dieu que Londres est joli quand il fait beau et quand les cœurs battent la chamade. Il était très exactement 12h14, heure de Paris, lorsque le prince Charles d'Angleterre, héritier de la couronne britannique, et Lady Diana Spencer, désormais princesse de Galles, ont été proclamées mari et femme, for the best and the worst, pour le meilleur et pour le pire.
L'assassinat d'Anwar el-Sadat bouleverse complètement l'échiquier politique de la région. 13h, Héliopolis, dans la banlieue du Caire. Le président de la République, en grand uniforme de chef d'état-major des armées, assiste au défilé marquant le 8e anniversaire de la guerre du Kippour.
Bob Marley est mort, il était âgé de 36 ans, le roi du reggae est mort dans un hôpital de Miami ce matin.
La mort de Jacques Lacan, le psychanalyste a succombé hier soir à Paris des suites d'une tumeur abdominale dont il avait été opéré au début de la semaine dernière.
La mort de Georges Brassens, il avait fêté son 60e anniversaire il y a exactement 8 jours. Brassens a succombé ce matin dans sa maison de Saint-Gély-du-Fesque, près de Sète, dans l'Hérault. Coluche, candidat pour de bon, c'est lui qui le dit. L'amuseur public national affirme que 632 maires lui ont promis leur signature. Il n'en faut que 500 pour être légalement sur la ligne de départ des présidentielles. Mais il faut des signatures noires sur blanc et pas seulement des promesses.
Pour le cas où il y en aurait qui ne sauraient pas, je suis officiellement candidat à la présidence de la République. La France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en quatre. C'est très bien, ça va gêner ça. Ça va marcher. Vous allez voir. Ils sont très bons dans la politique. Ils sont très bons. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai dit que j'allais me présenter, il y a un mois, ça ne faisait pas marrer, vraiment. Je trouvais que bon, il y avait des plaisanteries, que quand même, faut pas jouer avec les vêtements, la nourriture et les plaisanteries, quoi. Alors ils disaient quand même, bon. Et alors, un mois après, ils sortaient un sondage, comme quoi il paraîtrait. Vous savez, moi, qu'est-ce que je pense des sondages? Comme quoi, il paraîtrait que j'aurais entre 10 et 12,5%. Alors là, ça ne fait plus rigoler du tout.
Nous sommes à l'automne 1980 et les Français vont devoir élire leur nouveau président. La campagne est loin d'attiser les passions. Valéry Giscard d'Estaing, le président en place, de droite, est persuadé de rempiler pour un nouveau septennat. Il faut dire que la droite règne en maîtresse sur l'Hexagone depuis plus de 23 ans. On dit même alors, pour plaisanter, que l'élection consiste à choisir entre deux candidats et qu'à la fin, c'est la droite qui gagne.
J'ai peur, si vous voulez, que le régime de Giscard soit appelé à prendre de l'ampleur et que tout le monde crie « vive l'ampleur ». Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi.
J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux. Les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle, tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir.
Au moment de l'élection présidentielle, Coluche est avec quelques copains qui le charrient et qui lui demandent à qui il donnerait son vote. Coluche répond « Je vote abstentionniste, je suis le candidat des abstentionnistes ». Candidat, le mot est lâché.
De toute façon, mon programme est très très simple. Moi, je suis un candidat nul et je veux recueillir les voix des abstentionnistes. Voilà, je veux recueillir les gens,
vous ferez au moins 15%, quoi.
L'âge et la possibilité de voter en France et qui d'habitude ne votent pas. Et je voudrais qu'ils montrent combien ils sont et pourquoi ils font ça, quoi, en quelque sorte. Parce qu'en fait, ils ne sont pas représentés politiquement, quoi.
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Et rappelez-vous que si la Gestapo avait les moyens de vous faire parler, Les politiciens d'aujourd'hui ont les moyens de vous faire taire.
Ben moi, je suis venu uniquement pour faire coucou. Alors, une fois que j'aurai fait coucou, je m'en vais. Hein. Ce qu'il faut, c'est montrer aux hommes politiques... À mon avis, la leçon est beaucoup plus profitable aux gens de gauche qu'aux gens de droite. La leçon, c'est que il y a tout un tas de gens en France qui étaient prêts d'abord à voter pour eux, d'habitude, et qui sont prêts à voter pour moi au premier tour pour montrer qu'ils existent, tout simplement qu'ils existent. C'est quand même un drôle de problème pour le public d'être obligé de montrer aux dirigeants qu'on existe. Trouvez pas ?
Et si la gauche a une chance de l'emporter au second tour, vous donnerez des consignes à
en quelle année, vous voulez dire ?
Supposons que ce soit cette année-ci.
Ah, cette année-là ? Ah, encore ? Ah, ils ont encore une chance cette fois-ci ? Oh là là. Regardez, c'est pas compliqué. Celui qui votait à droite d'habitude, pourquoi il recommencerait ? On lui a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Celui qui votait à gauche, on lui a fait gonfler des espoirs qu'on n'a jamais éclatés. Et puis maintenant, il va voter pour qui ? Ben, je propose qu'il vote pour mon cul, moi. Je sais en tout cas qu'on est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va. J'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, vous me direz, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. »
Je trouve que ça va donner un côté un petit peu surréaliste, un petit peu genre Ubu. Et comme tout le monde s'ennuie, mais ça va changer un peu le discours politique.
Vous comptez voter pour Coluche, vous ?
Éventuellement, oui, pourquoi pas.
Et vous, monsieur ?
Moi, je trouve ça assez sinistre, parce que je pense que c'est son plus mauvais rôle. Et pourtant, il a du talent, alors c'est dommage.
Je ne suis pas partisan de Coluche, mais je suis partisan de ce qu'il y a de moins pire à l'heure actuelle. Mitran nous refuse Rocard. Certains autres nous refusent des écologistes qui sont, me semble-t-il, plus intelligents que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors pourquoi pas Coluche ? Coluche, ça ne pourra pas être pire que ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Françaises, Français, cette année c'était très bien, l'année prochaine ça sera pire. Eh oui, mesdames, messieurs, le pays va mieux que l'année prochaine.
La candidature de Coluche effraie. Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur, emploie les grands moyens. Il mobilise toute la direction des renseignements généraux. Un dossier est ouvert au nom de Coluche et l'humoriste est surveillé 24 heures sur 24. Le but, c'est salir le comédien en diffusant dans la presse des dossiers normalement confidentiels. C'est eux aussi qui envoient des lettres anonymes à Coluche. Ce sont des menaces de mort inscrites avec des lettres découpées dans les journaux.
Les hommes politiques, je vais vous faire un aveu, ne sont pas bêtes. Vous vous rendez compte de la gravité ? Ils sont intelligents, c'est-à-dire tout ce qu'ils font, le font exprès. Ils y réfléchissent, ils y pensent. Parce que vous comprenez, si c'était des cons, ça irait tout seul, on dirait « bon, bah c'est des cons ». Non.
Coluche obtient 16% d'intention de vote. Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, les deux autres candidats à l'élection présidentielle, envoient alors leurs propres conseillers pour dissuader Coluche de se présenter. Le 16 mars 1981, Coluche se retire de l'élection présidentielle.
Je ne veux pas de responsabilité politique, et puis en plus, avec ma candidature, ça fait quand même 6 mois que je suis sur le coup, j'ai vu d'assez près... certains représentants des partis politiques puissants pour savoir que de toute manière on ne peut pas s'entendre avec ces gens-là parce qu'ils n'ont pas du tout le même but que les Français, si je peux dire. Ils veulent gagner les élections et moi je voudrais que ce soit les Français qui gagnent les élections. Dans l'état actuel de ma candidature et de la censure, je préfère que ma candidature s'arrête parce qu'elle commence à me gonfler. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu, quoi. Puisque si moi ça me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres ?
Je sais, j'ai tendance à ouvrir ma gueule un peu trop fort. Mais ça tient à ce que jusqu'à 20 ans, j'ai cru que je m'appelais Silence.
Coluche, quand il commence à émerger vraiment au grand public à partir des années 70...
Marius Colucci, l'un des fils de Coluche.
Pendant toutes les années 70, ça va être la décennie sur scène où il va éclater... Mais dans les médias, on l'invite pas tout le temps parce que on trouve qu'il est vulgaire. Et en fait, ce qu'on dit pas officiellement, mais ce qu'on dit officieusement, c'est que il dérange un peu à force d'expliquer comment se passe la politique à tout un chacun. Bah des fois, ça fait un peu chier. Donc, il est assez censuré finalement dans les émissions. Et lui, il n'a pas le droit d'aller dans les émissions pour dire des trucs vrais, même si c'est des sketchs, alors qu'il voit à longueur de journée des hommes politiques aller dans les émissions, dire des mensonges plus gros qu'eux, et personne ne les arrête, et au contraire, on les encourage et on les invite. Donc lui, ça l'a énervé, il s'est dit, bah, si je veux pouvoir dire ce que je veux, il faut que je sois, moi, candidat aussi, et comme ça, bah, on pourra pas me boycotter. Et en fait, malheureusement, son calcul était un petit peu prétentieux, parce que c'est au contraire exactement l'inverse qui s'est passé. Il a été d'autant plus boycotté, et ça a été une période assez dure. Il l'a mal vécu d'ailleurs, il lui était pas content, et il avait un peu raté son coup aussi. Il a fait une grève de la faim à la fin, ce qui voulait bien dire qu'il boudait quand même. Bon, il l'a pas fait longtemps, et puis je crois qu'il trichait, hein. C'était plus un événement médiatique pour dire ras-le-bol. Et d'ailleurs, après, il est parti un peu en vacances, et puis il est revenu plutôt avec le cinéma, du coup, pour changer son fusil d'épaule. Hein.
France Inter, tribunal des flagrants délires du 20 mai 1981.
Avez-vous une question à poser, monsieur le procureur ?
Oui, je voudrais demander à monsieur Colucci pourquoi il a demandé à ses amis de voter Mitterrand entre les deux tours ?
Depuis le temps qu'on nous promettait Mitterrand aux élections, c'était bien qu'on l'ait un peu pour voir, quoi. J'ai trouvé que le moment était venu, si tu veux, qu'on essaye un petit peu, pendant 30 ans, de voir si la gauche, ça serait pas mieux.
Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République.
5, 4, 3, 2, 1.
François Mitterrand est élu président de la République.
C'est un jour historique pour cette 5e République en France. François Mitterrand, qui incarne la gauche, est élu président. C'était le 10 mai 1981.
Quand on parle, pas seulement en France, du 10 mai...
Laurent Fabius, ministre du Budget, puis Premier ministre sous François Mitterrand.
On n'a pas besoin de dire le 10 mai 1981, on dit le 10 mai. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin du millésime pour comprendre de quoi il s'agit. Et ce fait-là est le propre de peu de dates vraiment historiques. Comme si on avait un rapport si profond, si familier avec ces dates-là, qu'on pouvait en quelque sorte les appeler par leur prénom. C'est vrai pour le 14 juillet, on ne cite pas le millésime, c'est vrai pour le 8 mai, c'est vrai pour le 11 novembre, c'est vrai dans les circonstances tragiques aux États-Unis pour le 11 septembre. Si vous voulez, il suffit de dire le quantum et le mois. Ça veut dire que ces dates-là, et le 10 mai en fait partie à mon avis, sont ce que j'appelle des dates de mémoire, c'est-à-dire des dates profondes qui marquent un changement, pas seulement dans la vie personnelle des gens qui ont connu ce moment-là et qui se le rappellent toute leur vie, mais dans une société. C'est un changement, pour employer un mot prétentieux, sociétal, c'est-à-dire de la société elle-même. Non pas changer toute la vie, mais changer des éléments de la vie.
Nuit de liesse populaire en France pour saluer le premier président de gauche de la 5e République, mais également pour fêter au-delà de la personne même de François Mitterrand, le changement politique ou l'alternance démocratique. Ce n'est qu'une question de vocabulaire.
C'est vrai, il pleut, mais ici on dirait que personne ne s'en aperçoit. L'important, c'est que les fusées de toutes les couleurs s'échappent de la foule comme les ballons en forme de cœur. Il y en a plus que des parapluies. Ici, on est monté sur les baraques avec des drapeaux rouges ou bien bleu-blanc-rouge. Plus fort on tape du pied, plus fort est le bruit, mieux c'est.
C'est un vieux rêve en France, depuis qu'il y a la 5e République, l'élection au président, du président au suffrage universel. Jamais un président de gauche n'a été élu.
Pierre Marlet, journaliste responsable de l'info sur la première.
Et c'est inimaginable au départ pour le mouvement gaulliste que la gauche gagne un jour. Pourtant, la gauche a failli gagner en 1974, Giscard Mitterrand. C'est le plus petit écart de l'histoire de la présidentielle. Et donc, ça veut dire qu'il y avait là des forces de gauche qui étaient présentes, qui étaient prêtes à renverser, on va dire, à prendre le pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'en 81, ça marche alors que ça marche pas en 74? Quelque part, c'est paradoxal, parce que 74, c'est plutôt un grand courant de gauche. On est sur la suite du mouvement hippie, on est sur toute une atmosphère de contestation après mai 68. Ça ne marche pas en 74 et ça marche pour la gauche en France en 1981, à contre-courant de tout ce qui se passe ailleurs en Europe. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'il y a le génie tactique d'un homme, François Mitterrand, qui a réussi à comprendre comment ça fonctionnait vraiment, qui a aussi bonifié en termes de communication, qui a trouvé le discours adapté ne pas faire peur, ne pas effrayer. Il y a une espèce d'espoir immense, de rêve éveillé. Cette fête, lors du 10 mai 81, est une fête inouïe, sous la pluie, toute la nuit, des dizaines de milliers de personnes qui convergent, parce qu'on a l'impression que la société va radicalement changer. Donc il y a là quelque chose d'inédit.
Ce matin à l'Élysée, dans son premier discours de président de la République, François Mitterrand a voulu donner le ton de son septennat.
Fidèle à l'enseignement de Jaurès, alors que troisième étape d'un long cheminement, après le Front populaire et la Libération, la majorité politique des Français, démocratiquement exprimée, vient de s'identifier à sa majorité sociale. Il est dans la nature d'une grande nation de concevoir de grands desseins. Dans le monde d'aujourd'hui, quelle plus haute exigence pour notre pays que de réaliser la nouvelle alliance du socialisme et de la liberté, quelle plus belle ambition que de l'offrir au monde de demain. C'est en tout cas l'idée que je m'en fais et la volonté qui me porte. Assurer qu'il ne peut y avoir d'ordre et de sécurité là où régnerait l'injustice, où gouvernerait l'intolérance. C'est convaincre qui m'importe et non vaincre. Il n'y a eu qu'un vainqueur le 10 mai 1981, c'est l'espoir. Puisse-t-il devenir la chose de France la mieux partagée.
La gauche s'impose en France alors que la droite semble dominer une bonne partie de l'Occident. Et si le charisme de François Mitterrand y a joué un rôle important, il faut aussi soulever le génie tactique d'un homme.
Il y a une série de raisons pour lesquelles la gauche en France gagne.
Laurent Fabius.
Première raison, c'est qu'il y a une volonté d'alternance. Il y a une lassitude à l'égard de la droite qui est au pouvoir au moins depuis 23 ans, depuis les débuts de la Ve République. Alors, il y a une deuxième raison, c'est la stratégie développée par François Mitterrand, qui était une stratégie extrêmement audacieuse et qui s'est révélée victorieuse. Quelle était-elle ? Consistait à dire, il y a un parti communiste qui est fort en France. Bon, le parti socialiste, lui, est faible. Mais les Français, dans leur majorité, ne veulent pas qu'il y ait un gouvernement de gauche dominé par les communistes. Si on veut sortir de cette équation et de cette contradiction, il faut, et c'est le pari de François Mitterrand avec ce qu'on a appelé l'Union de la gauche, que socialistes, communistes et radicaux se mettent ensemble, ce qui permettra aux socialistes de dominer les communistes, et finalement, à la gauche, réussit de l'emporter. Donc, Mitterrand, avec sa stratégie d'union de la gauche, a forcé, si je puis dire, l'union. Et le résultat a été que, aux élections présidentielles de 80, puis, a fortiori, aux élections législatives qui ont suivi un mois après, non seulement un président socialiste l'a emporté, mais une majorité socialiste extrêmement forte l'a emporté. Donc, cette stratégie a été évidemment déterminante dans la victoire.
La gauche l'emporte en France, nous sommes en 1981, au milieu de la guerre froide.
Et ce qui est intéressant, j'allais dire amusant, c'est de se rappeler la campagne de l'époque, ce qui aujourd'hui nous paraît totalement incongru. Songez que le ministre de l'Intérieur, avant les élections de 80, celles que remporte Mitterrand, son thème principal, je ne raconte pas l'histoire, était « Si la gauche l'emporte en France, il y aura les chars soviétiques sur la place de la Concorde ». Bon, alors aujourd'hui, tout ça nous fait, j'allais dire rigoler, nous fait rire, mais c'était le thème qui était développé, le thème, le couteau entre les dents. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, mais l'outil de l'anticommuniste qui avait été développé, qui avait été mis en avant pendant de nombreuses années pour empêcher que la gauche vienne au pouvoir, finalement, cet outil n'a plus été efficace.
Les ministres communistes au sein du gouvernement français font peur à certains dirigeants, comme par exemple à Ronald Reagan. Au cœur des interrogations, il y a la crainte d'une remise en question de la loyauté de la France vis-à-vis de l'Alliance Atlantique et par conséquent d'une fragilisation de cette alliance à un moment où les relations avec l'URSS sont particulièrement mauvaises.
Alors ce qui est très intéressant dans les années 80,
Pierre Marlet,
c'est que l'arrivée de Mitterrand, certes, il fait peur au monde financier, aux grands patrons, la peur des nationalisations qui va tout de même avoir lieu dans un premier temps, mais cette arrivée de Mitterrand, elle fait peur aussi au niveau mondial, à l'Amérique en premier lieu, aux alliés occidentaux, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne. On craint que Mitterrand, avec un gouvernement de gauche et avec des communistes qui sont au gouvernement, on craint que la France ne joue plus son rôle d'allié. Et que la France, finalement, ne rebascule dans un entre-deux qui avait été celui de Général de Gaulle dans les années 60, quelque part, de s'écarter de l'OTAN et d'être un allié pour le moins circonspect, distant par rapport à l'Amérique, à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne. Mais Mitterrand va pas du tout suivre ce terrain-là. Il va au contraire faire le choix de l'adhésion avec les alliés. Lorsque Margaret Thatcher va décider de partir en guerre contre l'Argentine aux Malouines, au départ, mais tout sépare l'Angleterre de la France. Ils ne sont d'accord sur rien, sur la construction de l'Europe, au plan économique, rien ne les rapproche. Mais Mitterrand va téléphoner personnellement à Thatcher et va lui dire « Dans ces circonstances, vous êtes attaqué, je suis de votre côté, je suis votre allié. » Thatcher, d'ailleurs, va être extrêmement ému de ce dialogue avec Mitterrand. De la même façon, les espions français sont assez présents face à la menace soviétique. Et les espions français vont continuer à partager avec l'Amérique les renseignements qu'ils collectent. Et donc, très vite, Reagan va voir aussi qu'il peut compter sur Mitterrand. Et donc, paradoxalement, ce président de gauche, Mitterrand, sera quelqu'un qui sera complètement dans le camp occidental. Lorsqu'il va y avoir une crise importante dans les années 80 de plus grande militarisation, avec des SS-20 soviétiques pointés sur l'Occident, il va être question de mettre des Pershing et des Cruise, des missiles américains, pour contrebalancer cette menace. De grandes manifestations de gauche contre cette montée en puissance, Mitterrand lui dira, écoutez, les euromissiles, ils sont là, tout simplement parce que les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. Manière de dire pour lui que face à la menace soviétique, quand on est menacé, certes on peut dialoguer, mais il faut montrer dans quel camp on est. Et Mitterrand choisit clairement le camp de l'Occident.
Ronald Reagan et Margaret Thatcher suivent la même politique économique, le libéralisme ou néolibéralisme. C'est le début d'une mutation du système économique mondial. Déréguler, défiscaliser, réduire l'inflation, désindustrialiser, réduire l'intervention de l'État, place au libre marché et à l'argent roi. En France, ceci ne figure pas dans le plan économique du gouvernement Mitterrand. L'état économique et social dont hérite François Mitterrand est celui-ci.
La France était un mauvais état, mais pas elle seule, parce que le monde venait de traverser et continue à traverser les grandes crises liées au choc pétrolier, au double choc pétrolier. Donc il y avait une inflation très forte de 14%.
Jacques Attali, conseiller de François Mitterrand.
Il y avait un chômage très élevé. Et il y avait une balance des paiements très négative, très peu de réserves et une très très grande difficulté à tenir la monnaie qui menaçait d'être dévaluée. Donc il y avait un sentiment du risque de décrochage de la société française qui était grand. En termes politiques, c'est une période extrêmement tendue avec une droite extrêmement dure, assez désunie entre la droite giscardienne et la droite gaulliste qui se disputaient beaucoup, et une gauche aussi très désunie puisque le Parti communiste ne faisait pas du tout confiance aux socialistes pour gouverner. Donc il y avait un pays extrêmement méfiant où dans les deux camps, chacun espérait la défaite de l'autre, de son partenaire. Les communistes espéraient la défaite des socialistes. Et les Chiraciens, les gaullistes espéraient la défaite de Giscard. La situation était assez tendue et les jeunes étaient très enfermés. Pas de radio libre, pas d'accès à la musique. L'homosexualité était interdite pénalement. L'avortement était extrêmement contraint. Les mœurs étaient extrêmement limitées. La peine de mort était là et appliquée de façon très systématique. Donc c'était un pays extrêmement, extrêmement dur.
Alors très vite, évidemment, il y a la réalité qui reprend le dessus. Hein. Souvent, c'est comme ça.
Pierre Marlet.
Les illusions, ça traverse toute l'histoire, ça. Hein. On rêve tout haut. Et puis, à un moment donné, la gauche au pouvoir, elle se comporte comme n'importe quel gouvernement, comme n'importe quel pouvoir. D'abord, il y a le triste bilan économique. On croit vraiment que les recettes économiques de gauche vont permettre d'enrayer ce chômage qui monte, cette hausse des inégalités. Sincèrement, il y a un espoir dans la société française que tout ça va changer avec la gauche au pouvoir. Et je pense même qu'il y a une forme de sincérité de la part du programme de Mitterrand à cet égard. Mais très vite, on s'aperçoit que ça fonctionne pas. Et après un an, il y a déjà ce qu'on va appeler le tournant de la rigueur. Et puis, il y en aura un second ensuite. Et finalement, on a une politique qui ne sera pas du tout celle qui avait été annoncée. On a une politique qui va essayer d'empêcher l'inflation, d'empêcher qu'il y ait trop d'endettement. On va garder un franc fort. Donc, bref, on n'a pas du tout des marqueurs de gauche pour le coup. Donc, oui, il y a une énorme désillusion, notamment dans la classe ouvrière, qui pensait que le déclin économique allait être enrayé, les vieilles usines, la vieille sidérurgie, tout ça. La gauche allait empêcher ce déclin industriel. Ben non, la gauche, elle est comme n'importe quel gouvernement, elle peut pas empêcher ce qui se passe autour dans le monde actuel. Et elle est obligée d'accompagner le mouvement en essayant d'avoir des politiques un peu plus sociales, sans doute, que le gouvernement de Thatcher en Angleterre. Mais ça n'empêche pas qu'il y a là un changement profond de la société durant les années 80.
La gauche s'attache à appliquer son programme.
Laurent Fabius.
Qui était un programme, évidemment, qui, sur le plan social, donnait des avantages nouveaux aux couches moyennes, aux couches populaires, qui augmentait les allocations familiales, qui augmentait le SMIC, qui prévoyait la retraite à 60 ans, donc un certain nombre de dépenses. Et comme l'économie française, industriellement, n'était pas très solide, et comme par ailleurs, au plan international, dans une économie ouverte comme l'économie européenne, les autres économies n'étaient pas très flamboyantes, eh bien, très vite, ce qui s'est passé en France a dérapé. C'est-à-dire que les déficits budgétaires extérieurs se sont creusés. Il y a eu 3 dévaluations dans les premières années du septennat de François Mitterrand. Et donc, on a été obligé de pratiquer dans les années 82 et 83 officiellement ce qu'on a appelé la politique de rigueur. Et donc la gauche a été obligée de pratiquer le tournant de la rigueur, ça lui a été reproché, mais en fait c'était inévitable.
Les études montrent que durant les années 80, il va y avoir une augmentation en quelque sorte de ce qu'on va appeler le capitalisme. En fait de tout ce qui représente le capital, la bourse, la finance, tout ça va progresser dans les années 80 au détriment de l'industrie. Et donc on a la réponse. Et la seule manière pour Mitterrand qu'il aurait eu d'empêcher ça, ça aurait été de s'isoler complètement, d'empêcher les échanges internationaux, de faire de la France non pas un moteur de l'Europe, mais au contraire de créer des murs. Mais c'est impensable. Et ça, sans doute que ça aurait été encore une désillusion plus profonde. Donc, le monde est en marche, le monde va vers plus de finances, d'économie. C'est un mouvement général dans tout l'Occident, avec des moteurs puissants du côté de l'Amérique et relayé en Angleterre avec la City en Londres qui devient la première place financière du monde. Et donc évidemment, partout ailleurs, ça va avoir des répercussions. En Belgique aussi, on a à ce moment-là un gouvernement plutôt de centre-droite qui va s'attaquer à l'endettement qui est énorme en Belgique dans les années 70. Et là, on se décide à faire aussi le tournant de la rigueur. Donc c'est un peu partout pareil. Et en France, ça reste un gouvernement de gauche, ça n'empêchera tout de même pas Mitterrand d'être élu en 88, mais c'est clair que le rêve d'une autre société qui avait été présent très fort en 1981, là on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas.
Une décision a été prise qui a été importante et controversée. La décision, c'est de rester dans ce qu'on appelait le système monétaire européen. Alors, il y avait les tenants de cette sortie du système monétaire européen. Et d'autres étaient sur une autre ligne en disant « Non, il faut rester dans le système monétaire européen. » Et Mitterrand, à l'époque, m'a demandé, à moi, jeune ministre du budget, il m'a dit « Écoutez, Fabius, je veux en avoir le cœur net, renseignez-vous, voyez les uns et les autres d'une façon tout à fait discrète et revenez me voir dans 8 jours en me disant ce que vous en pensez. » Bon, je suis revenu voir François Mitterrand et lui dire « Écoutez, Président, honnêtement, si vous décidez de sortir du système monétaire européen, parce que vous pensez que cela va nous permettre d'avoir une politique moins rigoureuse, et donc plus conforme à nos projets initiaux, eh bien le résultat sera exactement l'inverse. Pourquoi ? Parce que, sortis du système monétaire européen, nous n'aurons plus aucune attache européenne. Nous flotterons dans l'air. Et nous sommes un gouvernement de gauche qui n'est pas particulièrement apprécié des marchés financiers. Il y aura des attaques considérables. Nous serons obligés, non pas de relâcher la rigueur, mais au contraire d'accentuer la rigueur. Et donc le paradoxe, chiffre à l'appui, c'est que si nous sortons du système monétaire européen, eh bien nous serons obligés de faire une politique encore plus dure que celle à laquelle nous conduisent nos réalités économiques. Mitterrand a tranché dans cette direction, au nom aussi de l'attachement fondamental qu'il avait pour l'Europe, parce que c'était un grand Européen. Et donc, nous avons en même temps officialisé cette politique de rigueur et nous sommes restés dans le système monétaire européen. À l'époque, les communistes ont décidé de sortir du gouvernement, même si ça n'a été officialisé qu'en 84, c'est-à-dire une année plus tard.
Pride, ce titre de U2 est présent sur l'album que l'association écologique Greenpeace sort le 19 août 1985 afin de récolter des fonds. L'album porte le nom d'un de leurs bateaux qui a été coulé un mois plus tôt par les services secrets français, le Rainbow Warrior.
C'était un bateau écologiste qui voulait s'opposer à la reprise des essais nucléaires à Mururoa, donc en Polynésie française. Et ce bateau était à quai en Nouvelle-Zélande, au port d'Auckland. Et donc, les services secrets français, on le sait maintenant avec certitude, avec l'accord de François Mitterrand, ont décidé de plastiquer ce bateau, de le couler pour éviter qu'il ne vienne perturber la reprise des essais nucléaires. C'est tout de même une décision radicale, forte, violente. Il y avait d'ailleurs sur la table d'autres solutions potentielles. On choisit la plus forte avec l'accord du président de la République. On se dit à ce moment-là, tiens, la gauche au pouvoir, on pensait qu'il y avait une exigence morale plus forte qui allait être respectée. Et on se rend compte, ben non, la raison d'État qui existait auparavant, quand la droite était au pouvoir, elle existe toujours dans les années 80, lorsque la gauche est au pouvoir. Il n'y a pas de différence véritable.
La décision d'empêcher ce bateau d'aller sur zone avait été prise par M. Giscard d'Estaing avant.
Jacques Attali.
Quelques agents maladroits ont trouvé malin de couler ce bateau dans le port d'Auckland et de ne pas vérifier s'il y avait personne à bord. Il y avait malheureusement quelqu'un à bord qui est mort. Et donc, c'est devenu une grande affaire internationale en raison de la mort d'un photographe de presse, alors que le fait d'empêcher par tous les moyens légaux un bateau de se rendre en violation des règles internationales sur une zone nationale et en particulier une zone militaire était fondé en droit. Ce qui n'était pas fondé, c'est de couler un bateau dans un port étranger et en particulier en causant la mort d'une personne.
Dans son second septennat, on va retenir les écoutes téléphoniques, des écoutes décidées directement par l'Élysée. On le saura plus tard, c'était notamment pour respecter le secret sur sa fille secrète, Mazarine. Donc, il y avait là une décision au sommet d'organiser soigneusement les écoutes de journalistes qui pourraient peut-être, si on ne les surveille pas, éventuellement parvenir à lâcher le morceau. Là, tout de même, c'est assez intriguant de la part d'un président de la République.
Les élections législatives ont lieu et c'est la droite qui les remporte. C'est une première en France, la cohabitation.
C'est important les années 86-88 parce que c'est la première cohabitation.
Pierre Marlet.
En fait, il y a des élections législatives. À l'époque, législative, c'était tous les 5 ans. La présidentielle, c'était 7 ans. Et en 86, la gauche perd les élections. Donc on va avoir une majorité de droite avec un président de gauche. Certains se disent, est-ce que c'est gérable? Est-ce que le président ne devrait pas démissionner? Et la Mitterrand assume complètement, dit, non, je suis le président de la République. Je suis élu jusqu'en 1988, je reste, même avec une majorité hostile. Et il va se servir à cette époque de ce levier pour renverser l'opinion, pour réussir à se mettre au-dessus des partis, au-dessus des considérations immédiates. Et chaque fois qu'il va y avoir quelque chose d'un petit peu limite sur le plan des libertés, sur le plan moral, très symboliquement, le président de la République ne va pas signer. Dire non, je ne signe pas. Et donc va imposer à cette loi de devoir refaire tout un parcours par l'Assemblée nationale, mais de cette manière-là, il devient un petit peu le protecteur des valeurs de gauche. Ça va être la campagne de 1988 qui va être extraordinaire, qui va être un triomphe pour lui sous l'ère de Tonton, tu es là. C'est ce moment-là qu'on commence à désigner François Mitterrand comme Tonton, comme quelqu'un qui l'a au-dessus et qui nous protège. Et en 88, face au Premier ministre de l'époque, qui est Jacques Chirac, François Mitterrand gagne très facilement cette élection présidentielle.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
En 1988, celui qu'on appelle Tonton rempile pour un second mandat.
Je pense que c'est les services de sécurité qui l'avaient nommé ainsi, Et ça lui correspondait assez bien, c'est-à-dire un oncle sympathique.
Jacques Attali.
C'était un homme extrêmement impressionnant, charismatique, cultivé, grand passionné par la France et les Français, grand passionné par la construction européenne et par l'Europe, très ami de beaucoup d'écrivains, d'intellectuels, très soucieux de la jeunesse qui était son obsession, aussi parce qu'il pensait que c'est grâce ou à cause de la jeunesse que se définirait sa propre trace.
Tonton, enfin François Mitterrand, qui n'était pas quelqu'un sur l'épaule duquel on tapait facilement, était aimé de la jeunesse.
Laurent Fabius.
La jeunesse et les mouvements de jeunesse de l'époque ont surfé, si je puis dire, sur cet enthousiasme de la jeunesse, avec en plus les mesures culturelles qui avaient été prises, qui étaient extrêmement nombreuses. Au fond, pour beaucoup, beaucoup de jeunes en France, Mitterrand, c'était pas seulement le président de la République, c'était leur tonton, quelqu'un de la famille.
François Mitterrand a marqué la gauche de son empreinte et son influence est encore bien présente. Nous lui devons de nombreuses réformes encore d'application aujourd'hui.
Quand on pense à François Mitterrand, on retient aussi que c'est sans doute un des présidents les plus cultivés de l'histoire. Il lit énormément, il adore la culture. Et une des manières pour lui de laisser une trace dans l'histoire, c'est aussi par la culture, c'est aussi par la pierre dans Paris. C'est quelqu'un qui a énormément investi au plan culturel. On pense évidemment à la pyramide du Louvre, on pense à la bibliothèque François Mitterrand, on pense à l'Arc de la Défense. Donc, c'est clair que le Paris que nous connaissons aujourd'hui, ben, il a été transformé par François Mitterrand et depuis lors, plus aucun président n'a marqué d'une façon comparable une trace dans la ville de Paris.
Parmi les réformes qui, je crois, restent dans l'histoire, d'abord, un certain nombre d'améliorations sociales qui sont des améliorations en termes de pouvoir d'achat. Vous avez une augmentation des allocations familiales, je parle de mémoire de 25%, une augmentation du minimum vieillesse, une augmentation du SMIC. Vous avez la cinquième semaine de congé payé qui reste, bien sûr, d'actualité. Vous avez, ça c'est plus controversé, le passage de la retraite à 60 ans. Vous avez, là aussi c'est controversé, un certain nombre de nationalisations. Vous avez, sur le plan des liberté, des conquêtes très importantes, et qui sont des conquêtes, j'allais dire, définitives. Vous avez l'abolition de la peine de mort.
Alors l'abolition de la peine de mort, c'est quand même, pour le coup, une des vraies promesses de campagne. Il avait affirmé que s'il était président, eh bien, il abolirait la peine de mort qui était toujours appliquée en France. C'est un des seuls pays d'Europe où non seulement c'était toujours dans la loi, ça l'est également en Belgique, ça l'était jusqu'aux années 90, mais on n'exécutait plus depuis le 19e siècle en Belgique. Tandis qu'en France, ben, la guillotine fonctionnait encore jusqu'à l'élection de François Mitterrand. Et donc François Mitterrand s'était engagé là-dessus, avec notamment Robert Badinter qui deviendra le garde des Sceaux. Il s'engage là-dessus, il tient sa promesse, alors que une majorité de Français est pour le fait de conserver la peine de mort. Et donc, malgré tout, là, il tiendra parole et dès la première année, c'est quelque chose de très symbolique, la peine de mort est abolie.
Vous avez la suppression des inculpations pour délit d'homosexualité, puisque c'est ça qui existait à l'époque. Vous avez, sur le plan médiatique, ça paraît loin, mais bon, les radios libres et puis un audiovisuel organisé différemment, avec l'autorité de l'audiovisuel qui rend les choses plus indépendantes et qui contrôle cette indépendance. Vous avez un très grand mouvement auquel a été associé le nom de Gaston Defferre, qui avait été le maire de Marseille, qui est le mouvement de décentralisation. Vous avez aussi des changements industriels considérables. Et puis vous avez sur le plan culturel tout ce qui a été fait et qui reste encore, allant de Grand Louvre à la fête de la musique, en passant par toute une série d'initiatives sur la maison de la culture, les bibliothèques, etc. On peut pas dire que, bien sûr, tout ce qui a été fait a été nécessairement une réussite pérenne et totale. Non, il y a eu aussi des erreurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a débridé à beaucoup d'égards la France et ça a permis d'entrer dans une ère plus moderne.
Thank you.
80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme.
Monstre
Parmi cette liste non exhaustive des réformes de François Mitterrand, il y en a une qui va considérablement influencer la musique des années 80. C'est celle qui concerne le paysage audiovisuel français. Le président Mitterrand libéralise les radios.
Les années 80, c'est un foyer de tubes parce qu'il y a plusieurs événements, dont la naissance des radios libres.
Mathias Goudot, co-auteur du documentaire « La véritable histoire des stars des années 80 ».
En 1980, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir va vraiment libéraliser les radios. Avant, on avait quelques grandes radios, France Inter, RMC, RTL, etc., sur lesquelles passaient quelques chanteurs. Alors évidemment, avec le recul, c'était beaucoup. Mais ces radios vont permettre, les nouvelles radios, vont permettre beaucoup de nouveaux espaces et donc une créativité grande pour remplir cet espace. Ce qui va permettre d'ouvrir l'espace possible. Et dans cet espace possible, ce qui était un peu caché, c'est-à-dire les radios associatives, vont devenir officielles et donc des antennes qui vont pouvoir être écoutées et officiellement écoutables, on va dire. Et donc il faut les remplir. C'est aussi bête que ça, il faut les remplir. Et donc du coup, parfois, les programmateurs radio passent exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui m'avait raconté qu'il amenait des disques de chez lui ou d'un copain. Et ça pouvait même arriver qu'on passe une maquette d'un groupe. Et ça, c'est l'exemple type des Démons de Minuit, où ils vont aller présenter un peu leur maquette, en fait, aux radios. Et il suffisait que le programmateur soit un copain, que le programmateur aime bien. On était beaucoup moins formaté au début des années 80. Et après, on va apprendre le formatage, on va apprendre les tests radio pour passer que ce qui teste, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on leur a fait écouter à des auditeurs lambda et test pour savoir ce qui marche. Mais à cette époque-là, il n'y a pas tellement de barrières, en fait. On n'a pas encore tout cadré. L'industrie musicale n'est pas encore complètement structurée. Encore une fois, comme pour les radios, il y avait quelques producteurs, il y avait quelques programmatrices. Ça s'ouvre dans les années 80. Et donc, ça permet beaucoup plus de créativité. La créativité de la bonne et de la moins bonne, mais en tout cas, il y a une liberté évidente.
Les boîtes de nuit se multiplient à cette époque et il se trouve que le DJ est souvent également animateur radio. Et si une chanson cartonne en boîte de nuit, eh bien elle se retrouve le lendemain sur les ondes. Elle ouvre ainsi la voie royale à la création d'un tube.
Quelque part dans les années 80, on passe du dancing à la discothèque et on passe du disque jockey au DJ. C'est-à-dire que on va avoir une liberté beaucoup plus grande de passer un peu ce qu'on veut dans les discothèques. Et surtout, les discothèques vont être un peu le terrain de jeu des programmateurs radio. C'est-à-dire ce qui passera de temps en temps dans des discothèques qui vont servir un peu de test pour voir si une chanson fait lever les gens, pourront servir aux animateurs radio à savoir si la chanson ou le titre va fonctionner sur leur radio. Donc effectivement, les boîtes de nuit, les DJ vont créer aussi une nouvelle émulation, et même émulsion créative, on pourrait dire, qui va permettre et donner l'espace à beaucoup de chanteurs, à beaucoup de compositeurs de créer de nouveaux morceaux, quoi. Il y a des tubes qui sont vraiment nés dans les discothèques, qui ont commencé dans les discothèques. Alors on pense, il y a des tubes, ça va de Quand la musique est bonne, de Jean-Jacques Goldman, qui vraiment a pas mal commencé dans les discothèques, au Démon de minuit, qui lui a même, c'était un groupe image à l'époque qui avait essayé de faire, entre guillemets, comme les Anglais, et ils avaient essayé de commencer par un titre, un texte en anglais, mais finalement ils vont se remettre et transformer cette chanson en français, parce qu'il y aura les quotas aussi, les quotas de chansons françaises pour un peu sauvegarder la chanson française et la création francophone. Et évidemment, ce sont des titres qui vont naître dans les discothèques. Et tu chantes ce refrain qui te plaît, et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. de folie, c'est une chanson qui va naître carrément dans une discothèque, puisque c'est l'animateur, c'était au Templier, l'animateur il s'appelait William Picard, et les Templiers c'était une boîte d'Aix-en-Provence, et il va s'amuser à improviser sur un titre, et toute la chanson c'est en fait, bah, vous allez voir ce soir, vous allez vous éclater, levez-vous, etc. C'était une improvisation en fait qui n'était pas vouée à devenir un tube et non encore moins un morceau, et c'est quand ce William Picard, on va dire ce compositeur improvisé ou occasionnel, va rencontrer Sacha qui lui travaille dans une radio locale qui est programmateur, et il va lui dire mais attends, transformons ton improvisation de tous les soirs là qui variait à chaque fois évidemment en tube, en tout cas en titre, et puis moi je vais le bastonner comme on pouvait dire sur mon antenne, et c'est comme ça que c'est devenu un tube. Donc il l'a testé clairement en boîte de nuit, et puis un programmateur radio connaissant les sons radio va l'engager sur l'antenne, et franchement c'est exactement ce qui va faire que cette chanson va devenir un tube.
Patrick Hernandez.
Il faut se rappeler quand même que Born to be Alive a, pendant une certaine période, vidé les pistes de danse quand même. Il faut le savoir. On me disait que le tempo était trop rapide pour que les gens dansent dessus.
Puis il y a des titres dont on pense qu'ils sont nés dans les discothèques, mais ils ont été refusés de partout avant. C'est l'exemple de Born to be Alive. Aujourd'hui, on ne pourrait pas penser, alors que tout le monde le connaît, ce tube, cette chanson, que ce titre a été refusé énormément. Et puis après, évidemment, c'était l'un des titres qui faisait se lever tout le monde, en tout cas sur la piste de danse, et puis après, sur les antennes des radios. Mais il y a une autre raison sur l'avènement de tous les tubes, c'est effectivement cet espace que vont créer les radios. Les radios diffusant beaucoup de titres, ayant besoin de beaucoup de titres, puisque il y aura des radios locales, on l'a vu comme pour Nuit de Folie, qui vont commencer à passer des tubes. Et cet espace-là va permettre aussi à de nombreux chanteurs français de faire passer tous leurs tubes.
Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique, que tous les voisins appelaient Taïna Nana. Pas de doute, Coco, t'as le look qui te colle à la peau. T'as le look. Toi, mon tout, mon roi, toi, toi, mon toi, 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 mon tout, mon roi.
C'était beaucoup plus libre.
Mathias Goudot.
C'est pour ça qu'on a vu des tubes un peu barrés, pardon, un peu fous, un peu décalés, franchement, à l'époque, comme C'est l'amour, qui a un titre, je pense qu'on l'écoute aujourd'hui, on se dit, mais il faudrait d'abord qu'il finisse sa chanson avant de nous le proposer. On avait des Toi, toi, mon toi, qui sur le principe, après si on creuse, c'est très intéressant comme chanson, mais Toi, toi, mon toi, c'est déjà à peu près incompréhensible. Donc oui, au début, rien n'est vraiment formaté comme ça va le devenir, rien n'est vraiment cadré comme ça va le devenir par la suite.
Chacun fait ce qui lui plaît.
Précipice est au bout.
Précipice, on s'en fout.
Alors je pense qu'il y a un vent de liberté dans les années 80 où on ose tout. C'est d'un côté les années Bernard Tapie, enfin bientôt, et d'un autre côté quand même, on peut se permettre une certaine insouciance avec des tubes comme ça qui ne veulent a priori pas dire grand-chose. Alors il y avait Tes états d'Amérique, t'as le look coco, c'est l'amour, même boule de flipper, enfin pardon, mais c'est très rigolo à écouter, et tant mieux, il faut que ça existe parce qu'il faut tout, mais ça voulait pas dire grand-chose. En revanche, il y avait une chanson qui s'appelle « Selawat », qui était assez révélatrice de cette époque-là. Son auteur qui raconte ça, que Selawat, en fait, Selawat qu'elle préfère, c'est une sorte de... désabusion, aurait dit Nino Ferrer, c'est-à-dire qu'à l'époque, on passait, en tout cas à Paris, certains passaient leur temps dans les boîtes, parce que voilà, c'était effectivement une sorte de libéralisation, encore une fois, et de « on assume le plaisir », et que cette « ouate-là » était cette espèce de, on va dire, pour être poli, on va pas parler de drogue, mais en tout cas, on n'est pas loin de ça, ou en tout cas de nuages dans lequel on pouvait être tout le temps, parce qu'il y avait une sorte d'insouciance permanente.
C'est la plus heureuse des paresseuses de toutes les matières. C'est la « ouate » qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate
de toutes les matières. C'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
Beaucoup de ces chanteurs-là des années 80 ont fait le succès d'un jour, énorme succès, et sont retombés très vite après. C'est le cas justement d'Élie Médéros, c'est le cas de Boule de Flipper, et c'est la même chose. Enfin, ces années-là permettaient de faire un énorme succès sans forcément avoir construit une carrière. J'ai envie de dire sans forcément être un artiste sérieux, je le mets entre gros guillemets bien sûr, c'est-à-dire artiste qui composait, mais ça peut être des coups comme ça qui s'amusent parce qu'on faisait de la musique facilement. Et que ça permettait, encore une fois, on a vu que l'accès aux radios était beaucoup plus simple. Et donc, du coup, on avait l'accès à la composition beaucoup plus facile que dans les années qui précédaient. Et on pouvait tout d'un coup faire un tube. De là à avoir imaginé toute une carrière et donc construire comme ça de nombreuses chansons qui vont faire un répertoire, pas forcément. Donc c'est pour ça que des artistes vont retomber assez rapidement dans l'oubli. Enfin, en même temps, pour C'est l'amour, par exemple, Alec Mention me racontait, ça a duré 6 ans. 6 ans sur une seule chanson. Donc avec le recul, on pense que ce sont des chansons Kleenex. Ça l'est un petit peu puisqu'on le connaît que pour cette chanson-là, une seule chanson. En même temps, il a tourné et vécu 6 ans avec une seule chanson, ce qui ne se ferait plus du tout aujourd'hui.
Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on trouve en cherchant sous ta blouse, c'est l'amour. J'prends l'entrée et puis le plat du jour, c'est l'amour. Toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour.
De la déconnade pure, moi je ne pensais jamais que ça pourrait marcher.
C'est l'amour.
Aujourd'hui, une chanson, elle est balayée en 2 semaines. Mais là, pendant 6 ans, on a tourné avec cette chanson dans les boîtes, dans les clubs, en faisant des concerts. Donc on nous invitait en discothèque et maintenant vous avez chanté C'est l'amour. On chantait C'est l'amour, on chantait la version maxi de C'est l'amour. Puis ils réclamaient une troisième, on faisait C'est l'amour sans musique, a cappella. Et la quatrième, c'est le public qui chantait. C'est un truc qu'on pourrait plus vivre aujourd'hui.
C'est